thématique, vous le savez, c'est une église selon le cœur de Dieu. Et dans les derniers messages, et encore ce matin et quelques semaines, nous avons considéré ensemble plusieurs, il y a beaucoup de passages, mais je suis obligé de sélectionner pour nous amener à l'essentiel. Mais dans le Nouveau Testament, il y a de très nombreux passages avec ce mot grec « allélon » qui se traduit par « les uns les autres » ou selon vos traductions réciproquement, mutuellement. Mais ce mot, en vérité, évoque la question de nos relations, de nos devoirs réciproques, de nos responsabilités. Et le Seigneur nous montre dans différents passages clés, sous l'inspiration du Saint-Esprit, des apôtres, nous montre ce qu'il attend de nous pour que son Église soit vraiment l'Église au sens où il la conçoit. Il faut qu'elle reste l'expression de son cœur, il faut que l'Église et ses membres restent bénis et en bénédiction les uns pour les autres. Alors nous avons déjà considéré bien évidemment la question du Saint-Baiser et du lavage des pieds, mais pour nos amis qui nous rejoignent, vous vous doutez bien évidemment que ce n'est pas le geste pour le geste. Nous nous sommes penchés évidemment, les messages sont en ligne, sur la signification spirituelle de ce geste. C'est le principe spirituel qui nous intéresse, c'est la valeur du geste qui nous intéresse, parce que dans ces pratiques, il y avait vraiment la notion de valeur. On était profondément conscient de la valeur de l'autre à nos yeux. Il y a une profonde considération qui fait que je vais ouvrir et laisser un accès particulier à, de l'autre à mon cœur. Et c'était ça, pour résumer grosso modo la pensée. Et ça, c'est un fondement, une attitude de cœur, c'est la pensée de Christ, c'est comme ça, c'est la valeur que nous avons à ses yeux, c'est comme ça qu'il nous considère, c'est comme ça qu'il a ouvert, déchiré son cœur à la croix pour nous, et c'est comme ça qu'il nous accueille, pourvu que nous soyons repentants et pleins de foi. Et ça, c'est la base pour ensuite, derrière, avoir toutes sortes de relations diverses et variées, mais de bonnes relations, notamment ce « inquiétez-vous les uns les autres, ayez soin » 1 Corinthiens 12, ayez soin les uns des autres, inquiétez-vous, souciez-vous, dans le bon sens du terme, les uns des autres, parce que l'apôtre Paul, encore une fois, sous l'inspiration de l'Esprit, montre à l'église de Corinthe, cette église dont malheureusement le corps est déjà réellement bien disloqué avec le nombre de problèmes qu'il y avait dans cette église, et le Seigneur est en train de montrer par l'intermédiaire de Paul, Paul leur dit, mais... À ceux qui se sentent toujours insuffisants, ceux qui se sentent toujours dévalorisés, ceux qui ne sont jamais à la hauteur, ceux qui n'arrivent pas à se voir comme Jésus les voit, il leur dit « Vous êtes les membres du corps, chacun pour sa part. » Et puis pour d'autres, mais parfois c'est les mêmes, parce que dans nos vies, dans ma vie, dans vos vies, parfois on a eu ces moments où on était un peu trop au fond. Puis il y a des moments, dès qu'on était un peu mieux, on s'est un petit peu ambiancé tout seul. Et puis, oh là 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 là, on se croyait. Et là, l'apôtre Paul dit, oh là là, non, non. Il n'y a pas de membre inférieur, il n'y a pas de membre supérieur. Le message de la grâce renivelle tout le monde, remet tout le monde à niveau. Et puis, par la grâce de Dieu, il y a simplement une diversité voulue par Dieu, une complémentarité, une pluralité dans l'unité. Et chaque membre, même dit Paul, même ceux qui paraissent les plus faibles, qui paraissent les plus faibles, on va les entourer de plus d'honneur, et puis, par la grâce de Dieu, eh bien, on comprend les uns et les autres que nous sommes indispensables au corps, et puis nous avons cette considération et ce soin, cette attention particulière, les uns pour les autres, pas les uns pour les uns, parce que dans les églises, c'est toujours pareil, les uns pensent aux uns et les autres pensent aux autres. Non, il faudrait que les autres s'occupent des uns et que les uns s'occupent des autres. Et c'était tout le but aussi de ce que Paul a amené. Pour ce matin, on va faire une lecture dans Colossiens chapitre 3, dans lequel un passage un peu large, on va lire 15 versets, dans lequel il y a trois fois les uns les autres. Et le premier dans ce passage, c'est « ne mentez pas les uns aux autres ». Et j'ai vraiment eu à cœur de m'arrêter sur ce point et de méditer avec vous. On va lire Colossiens 3, chapitre 3, verset 1er. Et on va en tirer des applications pour nos cœurs, pour nos vies. Colossiens chapitre 3, verset 1er. Puisque vous êtes ressuscités avec Christ, si donc, c'est pas si, peut-être, c'est puisque, il est en train de parler à des disciples, né de nouveau, puisque vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Puisque vous êtes morts et que votre vie est cachée en Christ en Dieu, quand Christ votre vie paraîtra, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc en conséquence, faites mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, l'idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque, oui, vous aussi, vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, puisque vous avez une vie nouvelle, maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes. Peut-être dans vos traductions, vous avez propos équivoques. Paroles déshonnêtes, c'est-à-dire des discours obséquieux, des discours tendancieux, des blagues douteuses, voyez. Bon, voilà, je ne vous fais pas de dessin. Les paroles déshonnêtes, discours obséquieux, qui pourraient déplacer, qui pourraient sortir de votre bouche. Verset 9, ne mentez pas à l'élone, les uns aux autres. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif. Grec ici est un terme générique pour désigner l'ensemble de ceux qui n'ont pas connu la première alliance. Juifs, ceux qui ont connu la première alliance. Mais de toute façon, au final, la pensée de Dieu, la volonté, la finalité, c'est l'Église. Il n'y a donc ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous à l'élonne les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres, ce sera un autre message. Et si l'un a ce sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous à l'élone réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen. On va aborder ce matin « Ne mentez pas les uns aux autres ». La semaine prochaine, certainement, « Supportez-vous les uns les autres ». Pour de ce qui est de se pardonner réciproquement, je vous renverrai sur le site internet. C'est quelque chose que nous avons abordé en 3 messages sur la thématique de la restauration. C'était en janvier. C'est encore très frais dans vos esprits, je l'espère. Sinon, de toute façon, tout est sur le site. Je ne veux pas faire de bis repetita. On va simplement considérer ne mentez pas et supportez-vous. Dans le contexte général ici, l'apôtre Paul est en train de mettre en évidence, il est en train de mettre l'accent sur le fait que les disciples auxquels il parle, il est en train de mettre l'accent sur la vie nouvelle et par conséquent sur la responsabilité individuelle qui est inhérente à cette vie nouvelle. Il y a un merveilleux privilège, mais il y a aussi une responsabilité. Vous avez une vie nouvelle en Christ, ça, c'est son miracle, c'est sa part. On l'a confessé ce matin en célébrant la scène. Si Jésus n'était pas venu, pas de pardon de péché, il n'y aurait absolument aucune forme de pardon, de salut et de vie nouvelle, de nouvelle naissance en nous. Vous avez une vie nouvelle, ça, c'était sa part d'impossible, c'était son miracle. Par contre, vous avez quand même, vous, moi, nous avons chacun pour notre part quelque chose, nous avons une part à accomplir, excusez-moi pour faire basique, pour que ça marche. Et oui, à vous maintenant, c'est à vous, ce n'est pas un ange qui va venir le faire, c'est à vous de vous dépouiller des pratiques de l'ancienne vie, se dépouiller du vieil homme et de ses œuvres, ça veut dire quoi? Ça veut dire de renoncer aux principes de vie de votre ancienne vie. C'est à vous d'enlever de vos cœurs, de vos vies, des raisonnements, des relations. C'est à vous d'enlever ce qui fait obstacle à la bénédiction et à la croissance. C'est à vous d'enlever, c'est à vous de renoncer, d'en renoncer. Il y a non, personne ne le fera à ma place, c'est à moi de dire non, et c'est à moi de chercher les choses d'en haut. Et c'est à moi de m'affectionner aux choses d'en haut. Renoncer, il y a non, à la mentalité de ce monde, à ses pratiques, à tout ce qui faisait ma vie avant que je sois au Seigneur. Et notamment, Paul va quand même vraiment mettre l'accent à un moment sur la langue de façon générale. Peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais il va vraiment poser l'accent sur la question du mensonge et implicitement mensonge, vérité, vérité, mensonge. Parce que parmi les principes qui font vraiment la différence déjà dans nos vies, dans nos couples et dans l'Église, parce que l'Église ne sera pas autre chose que ce qu'est mon couple et mon couple ne sera pas autre chose que ce qu'est ma vie. Parmi ces principes qui vont vraiment faire la différence dans nos relations, qui vont favoriser la qualité de l'Église, donc la bénédiction, il y a le mensonge et la vérité et le mensonge. Ne mentez pas les uns aux autres. Pourquoi c'est si important? Il faut bien comprendre, bien aimé, que déjà de façon générale, la parole de Dieu... J'ai perdu la main, vous pouvez relancer, frère, merci. La parole de Dieu ne nous fait pas de moralisation. Il n'y a pas de morale évangélique. Le Seigneur est en train de nous montrer, l'apôtre Paul nous montre des principes pour lesquels nous sommes responsables, pour lesquels nous devons nous positionner et qui vont soit favoriser la bénédiction et l'action de Dieu, je vais pouvoir soit ouvrir une porte au Seigneur pour qu'il ait à faire, pour faire ce qu'il a à faire, ou sinon, malheureusement, avec d'autres principes, je vais ouvrir, malheureusement, un accès à l'ennemi. Nous avons chanté à juste titre « Toute arme forgée contre nous est brisée ». Amen. Vous le croyez ? Mais l'apôtre Paul et la parole montrent clairement que le mensonge est une arme de l'ennemi. Puisque toute arme forgée contre moi est brisée, mais je ne vais pas aller chercher une arme de l'ennemi. C'est une histoire, je vais voir si j'ai récupéré la main. Oui, merci beaucoup frère. C'est une histoire de nature. Il faut comprendre que ce n'est pas juste des mots. Derrière, il y a réellement une histoire de nature. La vérité, c'est la nature de Dieu, au même titre qu'il est saint, qu'il est lumière, qu'il est omnipotence, qu'il est grâce, tout ce que vous voulez. Dieu est saint, Dieu est la vérité. Dieu ne dit pas seulement la vérité, Dieu ne détient pas la vérité. Dieu est la vérité, c'est ce qu'il est par essence, c'est sa nature même. Dieu le Père, Dieu le Fils, je vous ai mis des références, la parole incarnée, l'Esprit en nous qui est l'Esprit de vérité, l'Esprit, le Dieu trinitaire, est la vérité absolue, parfaite, infaillible, sans cachotterie, sans dissimulation, sans omission volontaire. Il est la vérité. Avec le Seigneur, il n'y a pas de demi-vérité. Avec le Seigneur, il n'existe pas de pieux mensonge. Avec le Seigneur, c'est la vérité. Et si ce n'est pas la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, pour reprendre une formule célèbre qui n'est pas de notre pays, mais voilà, que personne ne respecte, mais c'est ce qu'on dit. La vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Le Seigneur dit non, si ça, c'est non, c'est pas la vérité. Le Seigneur, lui, béni soit son nom. On le sait, il ne se trompe pas. Mais béni soit son nom, il ne me trompe pas. Amen. En lui, il n'y a pas de dissimulation, il n'y a pas d'omission volontaire. C'est parties de vérité qui peuvent arranger, qui peuvent, quand on en a passé certaines sous silence. Oui, mais ce que j'ai dit, c'est pas que c'est faux, c'est vrai, c'est juste que je ne lui ai pas dit que... Mais ça, ça s'appelle de la manipulation. Et Dieu ne fait pas ça avec nous. Au sujet de l'ennemi, qui est l'accusateur, le menteur, qui est un manipulateur. Jésus dit bien, je vous ai mis la référence, Jean 8, 44, c'est la nature. C'est une histoire de nature. Le diable ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a en lui aucune vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, Jésus dit, il parle de son propre fond. C'est ce qu'il est. Il est le menteur et le père du mensonge dès le commencement, Jean 8, 44. Donc on s'aperçoit que le mensonge est réellement une arme essentielle de l'arsenal diabolique. Le diable n'est pas seulement, c'est vrai, vous lisez l'Apocalypse, oui, le diable est comparé à un dragon, et parfois le dragon, il va pourchasser Israël, Apocalypse 12, on voit le diable par moments qui attaque de façon frontale, dans le livre d'Esther, qui cherche à établir un génocide sur le peuple juif, etc. Et on voit des attaques frontales de l'ennemi, on voit par moments des déchaînements de persécution. Mais le diable n'est pas toujours un dragon. Le diable est aussi un lion. Et le lion, qu'est-ce qu'il fait? Il rôde. Il observe. Le lion est un excellent stratège. Et je vous rassure, hein, l'ennemi de nos âmes, le monde des ténèbres, le diable et ses démons, ne nous sondent pas. Ils ne peuvent pas lire en nous, ils ne connaissent pas nos pensées. Seul Dieu sonde nos cœurs et nos reins. Seul Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Le diable ne peut pas lire en nous. Par contre, le monde spirituel, ben, il nous voit vivre. Et il nous entend. Et il a à sa disposition une multitude de renseignements. Parce que nous, frères et sœurs, entre ce midi et pour certains dimanche prochain, dans 8 jours... on ne se verra pas, mais le monde spirituel, il vous aura vu vivre. Et il sait où sont vos failles, il sait où sont vos brèches, les brèches que vous n'avez pas comblées, les failles que vous n'avez pas acceptées, les choses que, les domaines sur lesquels vous n'avez pas pris bien position. Et par conséquent, il va savoir, alors parfois il y a de la tentation, parfois de la séduction, de la peur, de l'inquiétude. Et parmi son arsenal, il y a le mensonge. Demi-vérité, c'est un mensonge, c'est pareil. Et je vais aussi vous amener à ça, frères et sœurs, à la lumière de la parole. Vous savez, le mensonge, ce n'est pas forcément toujours un truc grossier. Ce n'est pas toujours un truc énorme. Ce n'est pas le gros mensonge éhonté, énorme. Non, non, ça fait aussi partie, les demi-vérités font partie du mensonge. Quand on n'a pas tout dit, quand on a volontairement occulté certaines parties pour manipuler l'autre, pour arriver à nos fins. Vous savez, c'est comme ça que le diable a eu Ève. Bon, je dis Ève parce que c'est elle, hein, mais ça aurait été Stéphane et Anne, ça aurait été Luc et Karine, Jonathan et Nathalie, c'était pareil. Il fallait absolument que soit révélée la faillibilité de la nature humaine, sa corruptibilité. Donc, c'est pas contre Ève, vous avez compris. Mais regardez la stratégie, comment il s'approche. Dieu a-t-il réellement dit, etc. Ben, le Seigneur a dit que... Mais non, Dieu n'a... Mais non. Parce que Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, vos yeux s'ouvriront. Mais c'est vrai. Ce qu'il a dit est vrai. Leurs yeux se sont ouverts. Et ils ont considéré qu'ils étaient nus. Malheureusement, ce qu'ils n'avaient pas dit, c'est que leurs yeux s'ouvriraient sur certains points, mais que sur le reste, ils seraient enchaînés dans l'aveuglement du péché jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, Jésus vienne. Donc, quand il a dit « vos yeux s'ouvriront », c'était vrai. Quand il a dit « vous serez comme des dieux », ben, c'est vrai. Regardez les hommes aujourd'hui. Est-ce que les hommes ne sont pas des dieux pour eux-mêmes? Surtout à l'époque des réseaux, excusez-moi. Il faut que tout le monde sache que le culte de soi, les hommes sont des dieux pour eux-mêmes. Ils sont devenus leur propre idole. Et quand il leur dit « vous connaîtrez le bien et le mal », ben c'est vrai, mais ce n'est pas comme ça que le Seigneur voulait les amener à la connaissance du bien et du mal. Mais ils ont connu le bien et le mal. Oui, c'est arrivé comme ça. Donc le diable n'a pas forcément dit des choses fausses. Et il y a une très grosse partie qu'il ne leur a pas dit derrière. Vous voyez le... C'est quand même aussi comme ça qu'il a essayé d'avoir Jésus. Première tentation, puisque tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. N'attends pas, te soumets. Pourquoi tu te soumets au Père? Pourquoi tu attends? Tu es Dieu autant que lui, c'est ça que ça veut dire. Tu es capable de faire tes propres miracles. Et le diable essaie de le pousser à l'indépendance. Parce que Jésus était rentré dans cette soumission, cette dépendance bénie du Père et de l'Esprit qui serait salutaire jusqu'à la croix et qui est le résultat de notre présence ici. Enfin, nous sommes ce résultat. Et en réalité, puisque Jésus dit non, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seul. Et je paraphrase, le diable lui dit, ah, tu veux jouer à ça? Tu veux jouer à qui de nous deux connaît le mieux sa Bible? Mais moi, des textes bibliques, j'en connais plein, moi. Et là, le Seigneur, le diable, deuxième tentation, il fallait être gonflé quand même. Dis à Jésus, mais puisque tu es Dieu, jette-toi du haut du temple jusqu'en bas. Puisqu'il est écrit, et il cite le psaume 91. Vous me le récitez, vous, le psaume 91? Ben non, eh ben non. Mais le diable, lui, il a sorti le psaume 91 à Jésus, enfin une partie, volontairement sorti de son contexte. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre, etc. Vous ouvrez le psaume 91, vous lisez ça, vous dites, mais c'est vrai ce que le diable a dit. Ah mais non, parce que c'est de la manipulation, parce que c'est justement des choses qui sont sorties de leur contexte. On a occulté, etc. Donc, toutes ces demi-vérités, ces vérités avec des parties occultées, aux yeux de Dieu qui est 100% sainteté, 100% lumière, 100% vérité, tout ça, pour le Seigneur, c'est du mensonge. Il n'est que vérité. Et heureusement, parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux m'appuyer sur sa parole. Vous vous rendez compte si dans la Bible, on vous dit la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité sur tous les points, sauf un. Il y a un point, mais on ne sait pas lequel, c'est pas bon. C'est la justification par la foi, par la grâce qui n'est pas bonne, à moins que ce soit la divinité de Jésus. Non, je sais pas. La résurrection. Du coup, vous vous rendez compte que pour un point, tout devient bancal. Ce que je veux vous montrer, c'est que quand il n'y a pas 100% de vérité, on ne peut pas avoir des relations de confiance, parce que la demi-vérité, la manipulation, les choses dissimulées, les vérités non dites, tout ça, ça amène de la confusion. Et du coup, ça amène de la méfiance et ça corrompt les relations à l'intérieur de l'Église. Donc, heureusement que Seigneur, sa parole est 100% vérité et que je peux m'appuyer dessus. Même ça, vous n'avez pas l'air convaincu. Hein. La parole de Dieu est 100% vérité. Hein. On est d'accord, parce que sinon, c'est même pas la peine, hein, faut qu'on remballe tout. Hein. Alors, comme on l'a chanté, merci beaucoup, j'ai trouvé ça tellement inspiré. Mentir, c'est donner l'avantage à l'ennemi. Toute arme forgée contre nous est brisée, c'est ce qu'on a chanté. Et moi, je vais faire quoi? Dans la pensée de Paul, c'est totalement illogique. Vous avez une vie nouvelle, vous êtes libre, vous allez aller ramasser une vieille arme de l'ennemi. Et puis vous allez ramener ça dans l'église de Jésus, tu vas ramener ça dans ton couple. Oh, ça ne peut pas coller, ce n'est pas possible. Donc c'est pas, vous comprenez bien qu'il n'y a pas de morale évangélique. Il y a du bon sens spirituel, il y a de la logique, il y a des faits, il y a des réalités. Tout ça c'est factuel, simplement factuel. Et mentir, ou vous avez compris à quoi on pense quand on dit mentir, parce que des fois on dit non, je n'ai pas menti. Si, tu as menti. Je me prêche à moi-même aussi, hein, ça nous arrive à tous, ça peut nous arriver à tous. C'est utiliser une de ces armes, c'est redonner à l'ennemi un pouvoir, un accès qu'il n'a plus. C'est pas le diable qui est redevenu plus fort, il est lié, il est vaincu, c'est toi qui es redevenu malheureusement trop faible. Ton mensonge t'a affaibli, c'est toi qui es redevenu plus faible. Tu as attristé l'esprit de vérité dans ton cœur et ensuite... Ça amoindrit sa joie, sa puissance, il ne se reconnaît pas. Et choisir le mensonge, c'est renoncer à la vérité. Choisir la vérité, c'est renoncer au mensonge. Mais les deux sont incompatibles. 1 Corinthiens 7, quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Point d'interrogation. Ça fait 2000 ans que Paul attend la réponse. Personne ne répond, vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas. Parce que c'est 100%. C'est incompatible, incompatible. Et ce sont des réalités spirituelles qui doivent animer nos cœurs, du bon sens, de la logique. Soit je vais ouvrir une porte à l'ennemi, soit je vais ouvrir une porte à Dieu, mais il va forcément se passer quelque chose. Et moi, je ne veux pas mettre Dieu par des propos, des paroles, des manipulations. Je ne veux pas mettre Dieu à l'écart. Je veux qu'il ait un plein accès. Je veux qu'il se sente libre. Je veux qu'il soit heureux, qu'il soit joyeux. Je veux qu'il se sente bien en moi. J'insiste. Dans mon couple et ensuite dans l'église. Et je veux permettre à Dieu de pouvoir me bénir, je veux qu'il se reconnaisse dans l'église, dans mon couple, dans ma vie, par la vérité, qui est en moi. Vous savez aussi, le mensonge, non seulement ça va fausser toutes les relations, parce que quand quelqu'un vous a menti, quand il vous a trompé une fois, quand on vous a mené en bateau pendant des mois et des mois, et qu'ensuite vous découvrez le pot aux roses, comme on dit, avant que la confiance revienne, c'est dur, hein. Et puis, c'est aussi mettre le doigt dans un engrenage, le mensonge. Parce que le mensonge, comme le péché, comme la chair, comme les œuvres de notre ancienne vie, le mensonge est insatiable. À partir du moment où on a mis le doigt dedans, il faudra toujours un deuxième mensonge pour couvrir le premier. Et il en faudra un troisième pour couvrir le deuxième. Et ainsi de suite. Alors quand l'apôtre Paul, sous l'inspiration de l'Esprit, nous dit « Ne mentez pas », il pense à notre bonheur, il pense à notre bien, à nos bienfaits. Ça va ? Vous m'aimez toujours ? Ça va ? Pratiquez. Mentir, évidemment, c'est donner l'avantage à l'ennemi. Ah, je voudrais aller un petit peu plus loin, parce que dans la pensée biblique, la vérité, ça va plus loin que des paroles. Déjà, être vrai, parler vrai, parler, être vrai, dire la vérité, c'est aussi quelque chose, c'est quand même important, mais je voudrais insister sur la pratique de la vérité. Je vous ai mis ici en référence, je vais le lire pour vous, la troisième lettre de Jean, les versets 3 et 4, il n'y a pas de chapitre parce que c'est qu'une feuille, la troisième lettre de Jean, troisième épître de Jean, les versets 3 et 4, à un moment, l'apôtre Jean dit « J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre, dit Jean, que mes enfants marchent dans la vérité. » La vérité qui est en toi, la manière dont tu marches, la marche chrétienne, la marche est une image de notre comportement, de notre façon de vivre. Tu te comportes littéralement selon la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants se comportent selon la vérité, qu'ils ont des comportements vrais. Si vous regardez un dictionnaire, vous allez voir que la vérité, ce n'est pas compliqué. La vérité, c'est ce qui est conforme à la réalité. C'est ça la définition. Vérité, ce qui est vrai, sans blague, la Palisse n'en aurait pas dit mieux, juste en dessous, ce qui est conforme à la réalité. Ah, ça me fait réfléchir, ça m'intéresse. Parce que le Seigneur nous montre dans sa parole, j'ai choisi un exemple, mais il y en a bien d'autres, hein, que nous pouvons mentir par des attitudes, par des comportements. Pas seulement avec des mots, mais nous pouvons mentir malheureusement avec des comportements. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie, je vais vous montrer ça. Et je vous ai mis en exemple Galates. Ben, en même temps, celui-là, je crois qu'on va le lire quand même. Allez, je vous prends 2 minutes de plus, parce que ce sont des textes qu'on évoque quasiment jamais. Pourtant, bien aimé, c'est évident, hein, s'ils sont là, ils ont leur raison d'être. Hein. Galates chapitre 2. On va prendre les versets 11 à 14. Et en plus, ça concerne l'apôtre Pierre, le grand apôtre. Celui qui par sa prédication a ouvert le royaume aux juifs, acte 2. Celui qui par sa prédication a ouvert le royaume aux non-juifs, acte 10. Celui qui a fait lever aîné le paralytique. Celui qui a fait lever celui qui était à la porte du temple, a nommé la belle, acte 3. Celui qui a ressuscité Dorcas. Pardon. Voilà de qui on parle. Voilà de cet apôtre Pierre dont on parle. Et puis un jour, Galates chapitre 2, verset 11, c'est Paul qui parle. « Mais lorsque Céphas, c'est Pierre, c'est son autre nom, c'est Pierre, lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. » Ah bon ? Qu'est-ce qu'il a fait de si grave ? Je vais vous expliquer. « En effet, Avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, Jacques le demi-frère de Jésus, Jacques étant juif, il a envoyé des juifs. Avant l'arrivée de quelques personnes, des juifs implicitement, envoyées par Jacques, Pierre, l'apôtre Pierre, mangeait à table avec les païens. Et quand ces personnes juives envoyées par Jacques furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis, c'est-à-dire par crainte des juifs qui commençaient à arriver. Avec lui, avec Pierre, les autres juifs qui étaient là avec lui à table usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas, le fils d'exhortation, Barnabas, un compagnon de Paul, on ne parle pas de n'importe qui, même Barnabas fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant verset 14, voyant qu'ils ne marchaient pas droit, c'est-à-dire qu'ils ne se comportaient pas, voyant qu'ils ne se comportaient pas selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ? Amen. Il est en train de montrer ce décalage hypocrite que, dans lequel l'apôtre Pierre malheureusement a mis le pied à ce moment-là. Pourquoi ? Mais parce qu'il a eu peur. Et très souvent, bien aimé, à la source des mensonges qui peuvent sortir de nos bouches ou de nos comportements, souvent le moteur derrière, c'est la peur. C'est pour ça que le Seigneur veut que nous soyons libres de toute peur et de toute inquiétude, parce que c'est un accès pour l'ennemi. Et puis, il y a aussi dans ce texte, alors c'est pas, je vais fermer la parenthèse, il y a aussi la question du mimétisme, la question des influences des uns ou des autres. Pierre est un homme influent, et pour les autres, il y a du mimétisme. Pierre, il est super content, il mange, il faisait comme Jésus faisait à l'époque. Il mange avec les prostituées, les gens de mauvaise vie. Il est là à table avec des gens qui ne sont pas d'origine juive et qui arrivent au salut. Ils y sont, ils n'y sont pas. Mais Pierre est là, il est le même avec tous. Et puis d'un seul coup, il voit des juifs circoncis qui arrivent avec Jacques, le demi-frère de Jésus. Et là, il a peur, il se dit non, on va me le reprocher.
Bonjour frère, ça va ?
Ils sont là, parce qu'en fait, il s'est mis à parler en langue, on se demandait ce qu'il voulait dire, on ne comprenait rien. Ah ben non, parce que là, regardez, voilà. Hein ? Puis allez garder les autres juifs avec moi, voilà, et Barnabas, ben nous on est là. Eux, c'est, comment tu t'appelles déjà frère ? Monsieur, comment vous appelez ? Ah là là. Ben vous voyez bien aimé, Pierre, Barnabas, quand le Seigneur me dit « J'aimerais tellement que dans ta vie, il n'y ait aucune forme de peur. » Parce que Pierre, il s'est fait avoir. Et heureusement que Paul l'a recadré avec amour, avec douceur, dans son intérêt. Mais heureusement que Paul l'a recadré. Et si c'est arrivé à Pierre et à Barnabas, vous croyez que moi, je suis immunisé contre un comportement hypocrite, contre une parole, parce que j'ai peur, parce que... Oui, mais par peur ou pas par peur, le mensonge, c'est le mensonge. Et en réalité, ici, quand il lui dit, ils ont été entraînés par leur hypocrisie, dans l'original, c'est vraiment hypocrisie, hein. Hypocrousis, c'est réellement, littéralement, le rôle d'un joueur de théâtre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on ment par des comportements, en réalité, on se met à jouer. On joue un rôle, on se fait passer pour. Et c'est ce que Pierre a fait. Il a fait passer un message par son attitude et les autres, comme c'était lui le meneur, et les autres, ils ont suivi. Si ce que je laisse paraître n'est pas conforme à la réalité, la pensée est claire. C'est aussi du mensonge, je ne me comporte pas selon la vérité. D'autres synonymes, on les connaît pour hypocrisie, ce serait dissimulation, fausseté, duplicité. On peut avoir des attitudes doubles. Mais le problème, c'est que ça aussi, c'est le fond de commerce de l'ennemi. L'apôtre Paul dit bien, je ne sais plus le chapitre, pardonnez-moi, c'est dans 2 Corinthiens 11, il me semble, je ne sais plus. Il dit que le diable se déguise en ange de lumière. On sait que le loup se déguise en agneau pour mieux arriver à ses fins. Donc il y a aussi encore ici toute une façon, une stratagème. Alors si les paroles fausses, arrangées, donnent du pouvoir à l'ennemi, peuvent emprisonner mon cœur, parce qu'on est toujours prisonnier de ces mensonges. Tant que la vérité n'a pas éclaté, on est prisonnier. Si ça détruit la confiance, ça détruit les relations, eh bien, par le mensonge comportemental, on va aussi attrister l'esprit, on va s'emprisonner, on va s'affaiblir, et c'est évident, bien-aimé, il y aura un impact dans l'Église. Ça, c'est sûr et certain. Alors voilà pourquoi l'apôtre Paul est si impératif. Il ne me demande pas si j'ai envie, pas envie. Il ne me demande pas si je le sens ou si je ne le sens pas. Il m'a dit non, ne mentez pas. Ne mentez pas les uns aux autres. Pourquoi ? Parce que la vérité sera toujours un terrain de bénédiction. David dit, j'accélère un peu, on est bientôt au bout. David dit, psaume 15, « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente ?» Langage de l'Ancien Testament, désignait la présence de Dieu, la rencontre avec Dieu, le cœur. La présence de Dieu. Qui séjournera dans ta tente? Qui entrera dans ta présence? Qui demeurera sur ta montagne sainte? La montagne symbolise la hauteur de vie avec Dieu. La présence de Dieu, la qualité de vie intérieure, une hauteur de vie intérieure spirituelle, bien sûr. Qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Qui partagera ton cœur et ta vie? Celui qui marche, littéralement, qui se conduit, dans l'intégrité, celui qui pratique la justice. La justice, pour rappel, c'est de se positionner. La justice, c'est un terrain. Je choisis, je me positionne sur le terrain de la vérité ou sur le terrain du mensonge. Sur le terrain de la vérité, le Seigneur m'attend avec les bénédictions inhérentes à ce choix. Sur le terrain du mensonge, l'ennemi aussi m'attend, avec ses bénédictions à lui, mais qui seront mon malheur, inhérentes à mon choix. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, qui se positionne et qui dit la vérité selon son cœur. La vérité en parole, la vérité en attitude, bien-aimé, c'est un terrain sur lequel nous choisissons de nous positionner. C'est juste un choix. Un choix qui, par moments, demande beaucoup de courage, certes, mais c'est juste un choix. C'est un choix qui va honorer la nature de Dieu, dans lequel il va se reconnaître, ça va permettre son action, son intervention, sa bénédiction. Qui séjournera dans ta présence? Qui vivra sur les hauteurs de vie avec toi? Celui qui se conduit selon l'intégrité et la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Petite parenthèse, j'aime beaucoup cette parole de David. Celui qui dit la vérité selon son cœur. Parce qu'il y a des moments, on peut avoir été trompé, pensant que c'était vrai, on répète quelque chose, puis là on va dire, ah tu vois, t'as menti aussi. Ah, non. J'ai dit la vérité selon mon cœur. Je ne savais pas. Celui qui dit la vérité selon son cœur, parce qu'il y a peut-être des faits que je ne connaissais pas, des faits qui m'avaient été volontairement cachés. Celui qui dit la vérité selon son cœur. Et je ne suis pas responsable au-delà de ce que je dis selon la vérité que je connais dans mon cœur. Donc ce n'est pas seulement des circonstances, mais c'est dans l'être intérieur. J'ai l'approbation de Dieu, j'ai sa joie, j'ai sa paix, ça sent bon dans son Église, pardonnez-moi l'expression. Il se reconnaît, le Seigneur peut vraiment s'épanouir en moi, moi en lui, s'épanouir au milieu de nous, relâcher sa présence. J'insiste. Est-ce que Dieu m'aime plus quand je dis la vérité? Non. Depuis la croix, on est au maximum. Le Seigneur ne pourra jamais m'aimer plus. Est-ce qu'il m'aime plus quand je dis la vérité? Non. Est-ce qu'il m'aime moins quand je mens? Non. Son amour est immuable. Son amour me responsabilise et me met face à des choix, me demande de me positionner. Ce n'est pas qu'il m'aime plus. Ce n'est pas qu'il m'aime moins, c'est que c'est la justice au sens de se positionner et sur le terrain que je choisis, je rencontrerai les conséquences de mon choix. C'est aussi simple que ça. Donc Dieu ne m'aime pas plus, Dieu ne m'aime pas moins. Le diable n'est pas plus fort, le diable n'est pas moins fort, c'est juste toi qui lui a redonné, qui a pris une arme dont tu étais libre. Et puisque nous avons parlé d'armes, je vais terminer avec ça. Il ne faut pas oublier... Ah non, j'ai encore un point. Ah pardon, ça sera un peu plus long. Non, j'avais dit que je terminais. Enfin, ce n'est pas la première fois que je vous fais le coup. Hein. Je dis je termine, mais en fait, il reste un point derrière. C'est très important. La toile de fond, c'est l'amour, et on va voir ça ensemble. On n'oublie pas, bien aimé, que la vérité, 2 Corinthiens 13:8, la vérité est l'arme toute puissante de Dieu. Je ne sais pas, je ne vous l'ai peut-être pas mis, ce n'est pas grave. 2 Corinthiens 13:8, pour ceux qui notent, Paul dit, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Si le mensonge est une puissance diabolique, la vérité, c'est la toute puissance, c'est l'arme toute puissance de Dieu. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'avons de puissance que pour la vérité. Quand tu te tiens dans la vérité, mon bien-aimé, c'est simplement, simplement, un rempart. C'est une forteresse spirituelle qui maintient l'ennemi à distance et qui fait qu'il ne pourra absolument pas t'atteindre. Il est tenu en échec, il est maintenu à distance. Je continuerai la semaine prochaine. Je ne veux pas surcharger le message. De toute façon, il y a des choses qu'on peut encore étoffer. On en reparlera. Mais pour ce matin, peut-être simplement nous souvenir de cela. Vous avez une vie nouvelle. Cette vie nouvelle, elle a coûté extrêmement cher au Seigneur. Cette vie nouvelle vous place devant des responsabilités. Ces responsabilités consistent simplement à renoncer, à dire non, à laisser, à abandonner tout ce qui est de l'ancienne vie et de ses principes, et de faire des choix nouveaux, logiques, stratégiques, intelligents, de bien se positionner. Et parmi ces positions qui vont faire que l'Église reste l'Église au sens où Jésus la conçoit, ne mentez pas les uns aux autres. En d'autres termes, dites la vérité. Dites toujours la vérité. Soyez vrai, on le verra. Dites la vérité avec amour, avec douceur, avec humilité, avec bienveillance. Bien sûr, on ne dit pas la vérité n'importe comment, mais dites la vérité et vivez selon la vérité. Que vos comportements correspondent aussi et que vous marchiez dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que de savoir que mes enfants se comportent selon la vérité. Et ça, c'est la puissance de l'Église. Amen. On se recueille. Merci beaucoup.